Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série tellement importante, l'ascension du vainqueur et son triomphe. Nous sommes à l'étude numéro 24 et le titre sera La nouvelle Alliance. Toutes ces bénédictions de l'Église nous apprennent quelque chose des insondables richesses de Christ. Notez Éphésiens chapitre 3 verset 8, des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, une part spirituelle des promesses faites à Abraham, selon Hébreux chapitre 11, verset 10. Premièrement, nous avons l'ancienne et la nouvelle alliance. Cette alliance est nouvelle par rapport à la première. Hébreux, chapitre 8, verset 18. Donc, par rapport à la première qui fut donnée exclusivement à Israël. Psaume 147, versets 19 à 20. Les nations étaient, quant à elles, étrangères aux alliances de la promesse. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Ce qualificatif, de la nouvelle alliance, ou si vous voulez, ou Nouveau Testament, montre en lui-même que l'Église ne peut être séparée de sa base, la promesse de l'Ancien Testament. Le salut, en effet, il vient des Juifs, selon Saint Jean chapitre 4, verset 22, et Romains, chapitre 9, verset 5. Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Romains 11, verset 18. Il n'y a cependant plus aucune différence entre Christ, croyant juif, ou des nations. Elles sont tous participants des bénédictions de la Nouvelle Alliance au même titre. Et quant à son contenu, la Nouvelle Alliance est infiniment plus grande que l'ancienne. Voyez-vous, l'Épître aux Hébreux, surtout, en fait la démonstration. Saint Paul, dans la seconde épître aux Corinthiens, mettait en relief la supériorité de la Nouvelle Alliance par un septuple contraste. La pierre égale la chair. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. La lettre égale l'Esprit, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, la mort égale la vie, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 et 7, être inférieur égale être supérieur, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 8 à 10, la condamnation égale la justice, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Être passagère égale être permanente, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Être voilé égale être dévoilé, 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 18. Quant à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il montre que Christ est supérieur. Il est supérieur aux anges. Il est le médiateur céleste de l'ancienne alliance. Hébreux, chapitre 1 et chapitre 2. Comparez aussi Hébreux, chapitre 2, verset 2, avec Actes, chapitre 7, verset 53. Christ est supérieur également à Moïse, le médiateur terrestre de l'ancienne alliance, et le leader prophétique. Deutéronome, chapitre 34, verset 10. Christ est également supérieur à Josué, celui qui donne le repos, on peut dire, à toute la nation, en quelque sorte. N'est-ce pas? C'est le chef politique. Hébreux, chapitre 4. Christ est également supérieur à Aaron, le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance et le leader sacerdotal. Hébreux chapitre 5 jusqu'au chapitre 9. Christ est également plus grand que l'alliance elle-même. Il est la substance spirituelle de l'ancienne alliance. Hébreux chapitre 8. Le Christ, en effet, fait de la royauté une règle intérieure. Christ rend l'office prophétique universel. Christ apporte la perfection au sacerdoce. Hébreux chapitre 8, verset 8 à 13, et Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Christ est plus grand que le tabernacle, qui est le lieu de la révélation dans l'ancienne alliance. Notez Hébreux, chapitre 9. Christ est également plus grand que les sacrifices. Il est le médiateur de la patience divine sous l'ancienne alliance. Hébreux, chapitre 10. Christ est plus grand que tout ce qu'inclut l'ancienne alliance, puisque en lui nous avons été rendus participants, écoutez bien tout cela, participants d'une meilleure alliance. Hébreux 7, verset 22 et chapitre 8, verset 6. Ensuite, Christ est plus grand que tout ce qu'inclut l'ancienne alliance, puisque en lui nous avons été rendus participants d'un meilleur médiateur. Hébreux 1, verset 4 et chapitre 3, verset 3. Et je continue également d'un meilleur sacrifice. Chapitre 9, verset 23 et chapitre 12, verset 24. Également d'un meilleur sacerdoce, chapitre 8, verset 6 et chapitre 7, verset 7, et d'une meilleure profession, chapitre 6, verset 9 et chapitre 10, verset 34. Comme nous le savons, Christ est plus grand que tout ce qu'inclut l'ancienne alliance, puisqu'en lui nous avons été rendus participants d'une meilleure promesse. chapitre 8, verset 6, et chapitre 11, verset 4, toujours de Hébreu. Ensuite, meilleur, d'une meilleure espérance, chapitre 7, verset 19, d'une meilleure résurrection, chapitre 11, verset 35. Et puisque en lui nous avons été rendus participants d'une meilleure patrie, Hébreux 11, verset 16. Donc, revêtus de sa puissance, nous pouvons nous engager sur la route nouvelle et vivante. Chapitre 10, verset 20, toujours Hébreux. Nous pouvons nous engager dans la foi qui regarde en haut. Chapitre 11. Nous pouvons nous engager dans l'espérance qui se porte en avant. Chapitre 12. Nous pouvons nous engager dans l'amour qui se répand tout autour. Chapitre 13. Deuxièmement, nous avons les alliances abrahamiques et davidiques. En effet, dans son essence, la nouvelle alliance est l'accomplissement des deux alliances faites avec Abraham d'une part et avec David d'autre part. L'alliance abrahamique contenait la largeur de la promesse, les bénédictions pour tous les peuples, Genèse chapitre 12, verset 3. L'alliance davidique en souligne la hauteur, la dignité, le trône royal du Messie. 1 Chronique chapitre 17, verset 11 à 14. C'est pour cela que les deux sont à plusieurs reprises mentionnés ensemble, comme dans le message de l'ange Gabriel et le cantique de Marie, noté Saint-Luc, chapitre 1, verset 32 et le verset 55, et dans la louange prophétique de Zacharie. Saint-Luc chapitre 1, verset 69 et le verset 73, ou dans l'argumentation paulinienne sur la justification, Romains chapitre 4, verset 1 à 3 et le verset 6. L'accomplissement néo-testamentaire des promesses va de l'apparition du Messie en Israël et de son œuvre parmi les circoncis comme fils de David. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 5 et 6, ainsi que le chapitre 15, verset 24, à la révélation d'un salut qui est destiné au peuple du monde. Actes chapitre 13, verset 46. Romains chapitre 11, verset 25. Et Galates chapitre 3, verset 8 et 9 et le verset 14. Troisièmement, nous avons l'alliance et le testament. Strictement parlant, c'est moins une alliance qu'un testament. En effet, une alliance engage deux parties. Le testament est une disposition unilatérale dictée par la volonté du seul testateur, les dernières volontés. Dans le salut, tout procède du seul côté divin. La foi de l'homme n'est pas un équivalent, mais simplement, elle est la main qui s'empare de ce qui est offert. Une alliance est dissoute par la mort. Or, un testament ne devient légalement effectif que par la mort du testateur. Le salut est donc pleinement un testament. C'est la mort du crucifié qui rend l'alliance valide et opérante. Hébreux chapitre 9, versets 15 à 18. La mort du Christ était prérequise en vue de l'héritage éternel selon une sainte disposition. Et quatrièmement, nous avons le peuple de l'Alliance et le monde. Chers amis, il faut parfois lire tout le chapitre indiqué avant de penser que c'est une erreur. Bien sûr, je peux commettre une erreur et j'en serai très triste puisque je suis responsable devant le Seigneur. Il est donc important, avant une telle étude, de toujours prier pour que l'Esprit Saint puisse me guider, m'inspirer. Mais je suis que un simple être humain, ce qui veut dire faillible, hélas, hélas. Donc, le peuple de l'Alliance est le témoin de la grâce de l'Alliance expérimentée. Il est d'abord l'effet de l'Alliance, ensuite, il est son organe, d'abord l'objet et ensuite l'instrument du salut. Cette position en relation avec le monde est exprimée surtout par la prière du souverain sacrificateur rapportée en Saint Jean, chapitre 17. Ceux qui sont attachés à Christ vivent dans le monde. Tel est leur milieu. Saint Jean, chapitre 17, versets 11 et 15. Ceux qui sont attachés à Christ sont arrachés au monde. Telle est leur position. Et là, on peut dire Saint Jean, chapitre 6. Ceux qui sont attachés à Christ sont également séparés du monde quant à leurs sentiments. Saint Jean, chapitre 16. Et vous pouvez ajouter le chapitre 14. Ceux qui sont attachés à Christ sont envoyés vers le monde. Ça, c'est leur champ de service. Saint Jean, chapitre 18. Ceux qui sont attachés à Christ sont haïs par le monde. C'est leur lot terrestre. Saint Jean 14 et le chapitre 15. Ceux qui sont attachés à Christ sont préservés du monde. Ça, c'est le secret de leur victoire. Saint Jean chapitre 15 et le chapitre 11. Ceux qui sont attachés à Christ sont aimés dès avant la fondation du monde. C'est le fondement du tout. Car avant tous les temps, le Père avait donné l'Église au Fils, et cela comme un don d'amour. Cet amour du Père pour le Fils avant la fondation du monde est la base de la glorification de l'Église à la fin du monde. Il est dit, Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Saint Jean, chapitre 17, verset 24. Ainsi la fin rejoint le commencement, et le commencement garantit la fin. Romains, chapitre 11, verset 36. Dans le présent, les saints sont les messagers de Dieu devant le monde. Les saints sont la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Les saints sont ses témoins. Actes chapitre 1 verset 8. Les saints sont ses lettres. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 3. Les saints sont ses ambassadeurs. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Les saints sont ses porteurs de la parole de vie. Philippiens chapitre 2 verset 16. Les saints sont ses étoiles dans la nuit. Philippiens chapitre 2 verset 15. Les saints sont ses sept chandeliers d'or qui l'entourent, selon Apocalypse chapitre 1 verset 12 à 13. N'oublions pas, chers amis, que nous avons le salut personnel déjà présent. Luther a dit que celui qui nie la certitude du salut rejette tout simplement la foi. La rédemption en Christ est à la fois présente et à venir. Par la foi, l'individu possède un salut présent. Un salut libre et entier, mais il ne l'expérimente néanmoins que au travers des plus réels obstacles. Premièrement, nous avons un salut présent, libre et entier. Saint Paul, surtout, il illustre son expérience chrétienne par des lumières toujours nouvelles. Il l'a décrit en cinq images, prises toutes dans le domaine juridique où il est particulièrement à l'aise. C'est le pardon, c'est la rédemption, c'est la justification, c'est la réconciliation et l'adoption. Mais ces cinq figures ne sont pas, pour lui, d'abstraites conceptions théologiques. Il y a la remise des dettes. Ça, c'est le pardon. Alléluia. Il y a le rachat. Ça, c'est la rédemption. Il y a l'acquittement. Ça, c'est la justification. Et il y a l'acceptation comme fils. ça, c'est l'adoption. Loin de l'apôtre, toute dogmatique de théorie, il est bien plus homme de prière, témoin et prophète, que exégète ou métaphysicien. Il est donc important, chers amis, de comprendre les cinq choses suivantes. Écoutez bien. Premièrement, dans le pardon, le pécheur est devant Dieu comme un débiteur à qui l'on remet sa dette. Éphésiens, chapitre 1, verset 7, chapitre 4, verset 32, et Saint Matthieu, chapitre 18, verset 21 à 35. Deuxièmement, dans la rédemption, il est devant Dieu comme l'esclave qui reçoit la liberté, la rançon ayant été versée. Romains, chapitre 6, verset 18 à 22. Troisièmement, dans la justification, il se tient devant Dieu comme l'accusé déclaré juste. Romains, chapitre 8, verset 33. Quatrièmement, dans la réconciliation, il est devant Dieu comme l'ennemi avec qui la paix est signée. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 à 20. Et cinquièmement, dans l'adoption, il est devant Dieu comme un étranger ou esclave qui reçoit la dignité de fils. Éphésiens, chapitre 1, verset 5. Donc, chers amis, chacun de ces cinq tableaux, essentiels, dévoile un côté particulier de l'expérience unique du salut, ce qui veut dire, premièrement, le pardon se rapporte aux fruits, œuvres individuelles de notre vie, les péchés, Éphésiens chapitre 1, verset 7, et Romains chapitre 3 et le chapitre 4. Deuxièmement, la rédemption concerne la racine, notre entière condition de vie, l'esclavage du péché. Romains chapitre 6, versets 18 à 22 et les chapitres 5 jusqu'au chapitre 8. Troisièmement, la justification, ça c'est la somme du pardon et de la rédemption, c'est l'acquittement de la culpabilité des péchés. Romains chapitre 3, versets 23 et 24, et la déclaration de liberté à l'égard du pouvoir du péché, c'est-à-dire l'émancipation de liberté à l'égard du pouvoir du péché, c'est-à-dire, comme je viens de dire, et je le répète, l'émancipation. Et là, il faut noter Romains, chapitre 6, versets 7 et 10. Nous n'avons pas le droit, pas du tout le droit, de faire n'importe quoi. Quatrièmement, nous avons la réconciliation. Selon Romains, chapitre 5, verset 10, cela concerne la volonté et l'intelligence. C'est une conclusion de paix, c'est l'abolition de l'inimitié. Et cinquièmement, nous avons l'adoption, et au-dessus de tout, absolument au-dessus de tout, car elle concerne, oui, elle concerne notre position et nous confère la dignité céleste. Romains chapitre 8, verset 17. Donc, quand j'ai dit « nous confère la dignité », ça veut dire nous accorde la dignité céleste. Romains 8, verset 17. Et ainsi, tout est accompli et tout est réglé. Péché et les péchés au pluriel, la racine et les fruits, la culpabilité et le pouvoir du péché, la condition et la position du cœur, tout fut porté à la croix. Et personne, absolument personne, n'est plus saint que le pécheur qui a reçu maintenant la grâce de Dieu, la grâce de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Cela était toujours confirmé par le comte de Zinzendorf. C'était une personnalité vraiment très, très croyante, très pieuse, le comte de Zinzendorf. Et deuxièmement, nous avons tous les obstacles, et il y en a. Dans le croyant, un conflit vital se poursuit, opposant futur et présent, opposant la position et la condition, œuvre de Dieu et œuvre personnelle, cieux, les cieux et la terre, l'éternité et le temps, l'esprit et le corps. Premièrement, nous avons le futur et le présent. Oui, nous avons la rédemption. Notez Éphésiens, chapitre 1, verset 7, et Colossiens, chapitre 1, verset 14. Et nous attendons la rédemption. Romains, chapitre 8, verset 23. Notez aussi Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Oui, j'ai dit, le futur et le présent, nous avons la rédemption et nous attendons au futur la rédemption. Nous avons la vie éternelle déjà, selon Jean, chapitre 3, verset 36. Nous devons saisir la vie éternelle. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Donc, nous sommes, vous et moi, fils de Dieu. Romains 8 verset 14. Et nous attendons, toi, mon cher frère, et toi, ma chère sœur, nous attendons l'adoption. Romains 8, verset 23. Nous sommes déjà dans le royaume. Colossiens 1, verset 13. Et il nous faut entrer dans ce royaume. Actes 14, verset 22. Car notre héritage, selon Éphésiens 5, verset 5 et 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Oui, notre héritage. Dieu nous a glorifiés. Romains 8, verset 30. Et il nous glorifiera. Romains 8, verset 17. Telle est la tension qui met en présence le présent et le futur, l'être et le devenir. La foi introduit la plénitude de l'avenir dans la pauvreté du présent. Je répète, la foi introduit la plénitude de l'avenir dans la pauvreté du présent. Tout ce que nous avons, nous l'attendons. Tout ce que nous attendons, nous l'avons déjà. Nous sommes sauvés en espérance. Je répète, tout ce que nous avons, nous l'attendons. Tout ce que nous attendons, nous l'avons déjà. Nous sommes sauvés en espérance, selon Romains, chapitre 8, verset 24. C'est le futur qui draine à lui tout le contenu du Nouveau Testament. Le regard en avant vers le but est le temps même de tout le salut et de toute sanctification. Le Dieu fidèle qui est au-dessus du temps nous garantit le futur comme déjà présent et même comme ayant déjà pris place dans le passé. Il nous a glorifiés, Romains 8, verset 30. Et c'est Christ qui personnifie à la fois la promesse et l'accomplissement. Nous avons déjà toute chose, bien que la jouissance n'en soit encore que partielle. Jusqu'à la rédemption du corps, nous attendons la majorité, Romains 8, verset 23, et notre capital investi est réservé dans les cieux. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, et 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Ce que nous possédons déjà est une preuve de ce que le capital est bien à nous. Les possessions présentes sont les arts des biens à venir, les prémices de la moisson, Romains 8, verset 23, et Éphésiens chapitre 1, verset 14. Deuxièmement, la position et les conditions. Nous sommes morts, Colossiens 3, verset 3, Galates chapitre 2, verset 19 et 20, chapitre 5, verset 24, et Romains, chapitre 6, verset 6. Et nous devons mettre à mort nos membres. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Nous sommes donc des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles. Colossiens 3, verset 10. Éphésiens 4, verset 24. Et je tire cela de la version Darby ou les différentes versions allemandes. Et vous pouvez ajouter 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et nous devons être renouvelés, selon Éphésiens 4, verset 23. Nous sommes la lumière. C'est pas moi qui le dis. Notez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Et nous devrions briller comme des lumières. Éphésiens, chapitre 5, verset 9. Et Saint Matthieu, chapitre 5, verset 16. Nous sommes donc des saints de Dieu, selon Colossiens, chapitre 3, verset 12, Éphésiens, chapitre 1, verset 1, et nous devons être sanctifiés. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, Hébreux, chapitre 12, verset 14, et 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Christ habite en nous. Colossiens, chapitre 1, verset 27, et il doit habiter en nous. Éphésiens, chapitre 3, verset 17. Telle est la tension qui oppose position et condition, dignité et devoir, réalité et réalisation, position dans la grâce, et expérience. Le misérable qui est arraché à sa masure a été placé parmi les princes. Il est alors exhorté à se conduire comme un prince. Éphésiens 4, verset 1. La position impose des devoir. Noblesse oblige. C'est là qu'apparaît une autre tension, celle qui oppose la chair et l'esprit. Galates chapitre 5, verset 17. Le vieil homme et le nouvel homme. Romains chapitre 6, verset 6 et le verset 11. C'est donc là aussi qu'intervient l'œuvre constante de la foi qui est la sanctification. Troisièmement, nous avons l'œuvre de Dieu et les œuvres personnelles. C'est Dieu qui opère toutes choses. Cependant, nous sommes aussi ouvriers. Tout est don et pourtant tout implique notre effort. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Saint-Luc, chapitre 13, verset 24. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Et Hébreux, chapitre 4, verset 11. La sainteté est pleinement son œuvre. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et elle est pleinement mon affaire. Hébreux 12, verset 14 et 1er Épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 3. Elle est sans réserve un présent et un ordre, sans réserve un don et un devoir. Elle est en relation avec le choix des appelés, les appelés avant les âges. Éphésiens chapitre 1, verset 4 et 5. Et elle est la sanctification des choses au cours des âges. Saint Jean chapitre 17, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Et elle est la glorification des sanctifiés à la fin des âges. Saint Jean, chapitre 17, verset 24, et 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Cet harmonieux contraste est valable. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, versets 12 et 13. Chers amis, je vous relis tout cela sans les citations bibliques pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce qu'avec les citations bibliques, on se perd un peu. Alors, je répète. Troisièmement. Nous avons l'œuvre de Dieu et les œuvres personnelles. C'est Dieu qui opère toutes choses. Cependant, nous sommes aussi ouvriers. Tout est don et pourtant tout implique notre effort. La sainteté est pleinement son œuvre au Seigneur. Et elle est pleinement mon affaire. Elle est sans réserve un présent et aussi un ordre. Sans réserve, elle est un don et un devoir. Elle est en relation avec le choix des appelés avant les âges. Et elle est la sanctification des choses des choisis au cours des âges. Et elle est la glorification des sanctifiés à la fin des âges. Cet harmonieux contraste est valable. Il est dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tout essai humain d'explication est ici complètement déplacé. Même en Romains chapitre 8, verset 29, et 1er épître de Pierre chapitre 1, verset 1 et 2, la question demeure sans solution définitive. La liberté de la volonté humaine, notez Matthieu 23, verset 37, et Apocalypse 22, verset 17, donc cette liberté à la volonté humaine est affirmée, tandis que d'autres textes semblent souligner son manque de liberté, tels que Romains, chapitre 9, verset 11, et les versets 15 à 16, et le verset 18. Ce sont deux lignes parallèles qui ne se rencontrent que dans l'infini. Quatrièmement, nous avons les six cieux, les cieux et la terre. Christ a été élevé aux cieux. Éphésiens chapitre 1, verset 20 et chapitre 4, verset 10. Et notez Hébreux chapitre 7, verset 26 et le chapitre 8, verset 1. Cependant, il demeure en nous sur la terre. Éphésiens 3, verset 17, et Galates, chapitre 2, verset 20. Le chrétien vit sur la terre. Saint Jean 17, verset 11, et Philippiens, chapitre 2, verset 15. Et pourtant, il est assis. Nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Chapitre 1, verset 3, et Philippiens, chapitre 3, verset 20. Le chrétien qui a expérimenté la crucifixion avec Christ, selon Galates, chapitre 2, verset 19, expérimentera aussi sa résurrection. Colossiens 3, verset 1, et par l'Esprit Saint, son ascension aux cieux. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Le lien entre le ciel et la terre, c'est l'Esprit Saint qui vient d'en haut vers la terre. Actes chapitre 2, verset 33, et qui nous conduit d'ici bas vers la patrie céleste. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 17 et 18. Cinquièmement, nous avons l'éternité et le temps. L'éternité n'est pas simplement un temps sans fin. Elle est différente non seulement par rapport à la durée, mais aussi quant à son contenu de tout ce qui est temporel dans son essence même. Il faut se garder d'introduire l'idée de temps à l'intérieur de l'idée d'éternité. Nous n'arriverons à l'idée d'éternité par aucune sorte d'addition de temps. La vie éternelle n'est pas simplement une vie sans fin. Matthieu 25, verset 46 et Saint Jean chapitre 8, verset 51, c'est surtout une vie divine. C'est maintenant déjà que la foi expérimente le Dieu éternel à l'intérieur des limites du temps. Toute communion avec Dieu, la prière en particulier, est une participation à la vie de Dieu. Par elle, au milieu du temps, au sein de ce qui varie et chancelle, l'homme se tient déjà dans l'intemporel, nourri de ce qui est inébranlable et permanent. C'est là ce que veulent dire les Saintes Écritures lorsqu'elles enseignent que le croyant a la vie éternelle. c'est dès aujourd'hui, sur la terre, que celui qui croit au Fils a déjà la vie éternelle. Je répète, c'est dès aujourd'hui, sur la terre, que celui ou celle qui croit au Fils de Dieu, Jésus-Christ, a déjà la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 3, verset 36. Saint Jean, chapitre 17, verset 3. Et la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 14. Et chapitre 5, verset 12. Avant de terminer, on peut dire sixièmement maintenant. Et sixièmement, nous avons l'esprit et le corps. Tout cela se passe à l'intérieur des limites du temps. Nous sommes en Christ et pourtant encore dans le monde. Saint Jean 17, verset 11. Nous sommes dans l'esprit. Romains chapitre 8, verset 9. Et cependant encore dans ce corps. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Nous sommes à la fois délivrés de la mort et tenus de mourir. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 11 et le verset 16. Quel faible organe que notre âme! Quelle tente fragile que notre corps, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 et 4. Quel contraste entre l'Esprit de Dieu et l'homme, entre le contenu et le vase. C'est dans des vases de terre que nous portons notre trésor, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous sommes donc en même temps prêts et dans l'attente, en repos et dans la course. Hébreux 4, verset 3 et le verset 10, ainsi que Philippiens, chapitre 3, verset 12. Nous sommes libres, quoique contraints, chantant la victoire, quoique gémissant. Romains 8, verset 31 à 39 et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 4. Nous sommes mourants et voici nous vivons, nous sommes attristés et nous sommes toujours joyeux, nous sommes pauvres et nous en enrichissons plusieurs, n'ayons rien et pourtant nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Notre regard se porte en haut, oui, vers l'éternel en tant que supra-historique, en avant, vers l'éternel en tant que but de l'histoire. C'est un maintenant et un bientôt, une possession et une attente, une foi et une espérance, selon la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 21, et une double expérience enracinée dans l'amour éternel. Finalement, le jour vient où disparaîtra toute tension et tout obstacle. Avec le retour du Christ, toute contrainte sera abolie. La lutte et l'opposition de l'âge présent sont celles qui opposent la manifestation du royaume de Satan au royaume de Dieu encore caché en dépit de la victoire de Golgotha. Mais avec l'apparition du Christ, tout cela sera résolu. alors viendront avec son apparition, Colossiens 3, verset 4, la révélation du corps spirituel, la promotion de l'Église du temps de l'éternité, la transfiguration du présent en futur, le plein accord entre notre condition et notre position, le perfectionnement de notre œuvre humaine par son œuvre divine, et notre élévation loin de la terre, jusque dans le monde céleste. Je répète, alors viendront avec l'apparition du Seigneur, la révélation du corps spirituel, la promotion de l'Église du temps à l'éternité, la transfiguration du présent en futur, le plein accord entre notre condition et notre position, le perfectionnement de notre œuvre humaine par son œuvre divine, et notre élévation loin de la terre jusque dans le monde céleste. Et chers amis, dans la prochaine étude, nous commencerons à étudier l'enlèvement et la première résurrection. Nous allons donc maintenant terminer, si vous le voulez bien, par la prière. Prions donc maintenant, et je vous mettrai un ou deux chants du passé, il y a plus de 50 ans, quand j'avais fondé une mission sur cassette. Prions donc ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir ainsi conservé le souvenir de ces saintes et ineffables paroles que notre Sauveur adressait à ses disciples au moment de se séparer d'eux. Fais que nous les recevions dans notre cœur, comme s'il nous disait lui-même : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craignez point. Oui, Dieu de paix, remplis nos âmes de cette paix qui peut seule nous donner le sentiment de ton pardon et de notre réconciliation avec toi. Ô Jésus, qui t'es donné toi-même pour nous, qui nous a choisis et établis, quand nous nous égarions loin de toi, afin que nous allions et que nous portions beaucoup de fruits et que notre fruit soit permanent, afin aussi que tout ce que nous demanderons au Père en ton nom, il nous le donne. Demeurons-nous, Seigneur, et nous en toi. Hors de toi, nous ne pouvons rien faire. En nous-mêmes, nous ne trouvons que le péché et l'incrédulité. Mais tu as porté la peine de notre péché. Et si nous pouvons croire, toutes choses nous deviendront possibles. Enseigne-nous à garder ta parole, afin que le Père nous aime et qu'il vienne habiter en nous par cet esprit de consolation que tu nous as promis, que ce soit cet esprit lui-même qui dicte nos prières et qui inspire le culte que nous te rendons, afin que notre requête parvienne jusqu'à toi comme un parfum d'agréable odeur, jusqu'au jour où tu reviendras pour nous prendre à toi, Seigneur Jésus, afin que là où tu es, nous y soyons aussi avec toi. Amen. Amen. Et je vous mets maintenant, si cela fonctionne, un ou deux chants.
Sometimes they ask me if I'm really happy now. I say, sure, I never loved her anyhow. But inside I long for you and the way it used to be. I look around, there's a heartache following me. I always say that I'm really glad you're gone. I even act like I never cared at all. But your memory lingers on, really free. I look around and there's a heartache following me. I pawn my ring and everything that tied me to the past. I say I never loved her, never meant for it to last. But I know it's just a game, and the loser's always me. I look around, and there's a heartache following me. Sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me to answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you,